Chapitre 28. Joanne est silencieuse dans le Renault Trafic blanc de Marico. Elle garde les mâchoires serrées et le regard fixé au loin sur la route. Elle a eu beaucoup de mal à s'endormir. Poc était parti chasser, ce qui ne l'a pas aidé à s'apaiser. Quand elle a finalement sombré au petit matin, elle n'a connu qu'un sommeil agité et peu réparateur. Le véhicule de Marico s'arrête dans un bruit de ferraille peu rassurant devant l'entrée principale de l'hôpital. Marico se tourne vers elle. Il ne se départ jamais de son sourire chaleureux, pas même dans ces circonstances.
« Je termine ma tournée matinale à midi », indique-t-il avec son fort accent espagnol. « Je reviens te chercher à midi et quart ?»
Elle acquiesce et le remercie avant de sauter au bas du véhicule. La portière claque. Elle se dirige d'un pas lent en direction des portes vitrées. Elle n'a pas le temps d'atteindre la porte de la chambre d'Émile, celle que la réceptionniste lui a indiquée à l'accueil. Elle est interceptée par le médecin rencontré dans la nuit. Il devait guetter son arrivée. Il est là, dans la même blouse blanche que la veille, avec ses lunettes à la monture dorée et ses petits yeux verts.
« Vous me suivez ?»
Elle le suit et prend place dans le même bureau, sur la même chaise en mousse bleue. Le pot à crayon jaune et vert est toujours là, sur le bureau en noyer. Le médecin lui sourit et laisse passer quelques secondes avant de parler.
« Bien. Tout d'abord, soyez rassurés, Émile se porte bien ce matin. Son cœur a repris un rythme normal. »
Il lui laisse le temps d'assimiler l'information et en profite pour basculer en arrière dans son fauteuil en cuir.
Nous lui avons donné une dose d'atropine et le cœur a bien réagi.
Ses yeux verts se fixent sur Joanne, dont le visage est extrêmement pâle ce matin. Le ton du docteur se fait plus grave.
J'ai eu le temps de consulter son dossier médical ce matin. C'est bien ce que je craignais. La bradycardie est directement liée à sa maladie orpheline neurodégénérative.
Il laisse à Joanne quelques secondes pour acquiescer ou dire quelque chose, mais elle reste immobile et droite dans son fauteuil bleu.
Ma première intention, quand votre mari est arrivé aux urgences hier soir, a été d'envisager la pose d'un pacemaker. C'est une opération lourde, mais c'est aussi la solution la plus efficace et la plus radicale en cas de bradycardie. Il s'agit d'un dispositif médical que l'on implante dans l'organisme du malade et qui fournit des impulsions électriques destinées à stimuler le cœur lorsqu'il ralentit trop.
Il reprend son souffle et en profite pour se curer discrètement le nez.
Cependant, après consultation du dossier médical, je me rends compte que les choses sont plus compliquées. La bradycardie est directement causée par les dommages de la maladie sur son cerveau et, plus précisément, sur son tronc cérébral, qui gère l'ensemble des fonctions vitales de l'organisme. Nous pourrions traiter la bradycardie, mais j'ai bien peur que cela ne revienne à souffler dans une outre percée, si vous me permettez l'expression.
Joanne reste immobile. Elle s'efforce de fixer le pot à crayon jaune et vert.
Les autres fonctions vitales seront bientôt touchées, elles aussi, à leur tour. Pression artérielle, fonction respiratoire, régulation de la température du corps. Le trouble du rythme cardiaque n'est qu'une des nombreuses manifestations de cette dégénérescence. Aussi...
Il se redresse et le fauteuil en cuir bascule en avant.
Aussi, je m'interroge sur l'utilité de faire subir une opération aussi importante que la pose d'un pacemaker à votre mari, étant donné les...
Il hésite un court instant. Ses ailes de nez frémissent.
Étant donné l'issue fatale de cette maladie, quoi que nous fassions.
Il est surpris d'entendre la petite voix de Joanne s'élever, une voix douce mais parfaitement claire.
Je suis d'avis de le laisser tranquille. Je signerai toutes les décharges.
Elle s'attend à voir le médecin tiquer, mais ça n'est pas le cas. L'homme acquiesce avec lenteur.
Je comprends votre point de vue, et vu la situation, je dois dire que, malgré mon serment d'Hippocrate, je vous rejoins sur cette position.
Il ne scie pas. Ses petits yeux verts la fixent avec intensité.
Je dois juste m'assurer, avant de vous faire signer les décharges, que vous soyez parfaitement consciente des risques encourus par votre mari.
Elle acquiesce. Ses mains sont posées bien à plat sur ses genoux, comme ce jour-là quand ils étaient devant le maire. Elle écoute attentivement, sans faillir.
Le refus de la pose du pacemaker sur votre mari l'engage à de graves complications cardiaques. Insuffisance cardiaque, évanouissement fréquent et arrêt du cœur.
Il guette une réaction sur son visage, mais il est surpris de constater qu'elle reste totalement maîtresse d'elle-même et de la situation. Cela le trouble quelque peu et il a des difficultés à reprendre le fil de ses pensées.
Vous... Donc, si vous prenez note de ces risques et...
Il se met à fouiller dans un tas de paperasses sur son bureau.
Et vous maintenez votre position, alors, oui.
Il se perd dans ses papiers et dans ses pensées, relève la tête vers elle.
Oui, c'est ça, la décharge. Je vais vous faire signer un certificat de refus de soins. Vous devrez stipuler que je vous ai informé des conséquences sur la santé de votre mari et que vous maintenez votre décision.
Johan acquiesce. Le médecin recommence à fouiller dans les papiers et en extirpe un formulaire blanc.
La voilà. Je vais le remplir. La loi m'oblige à vous laisser 3 jours de réflexion avant de signer ce certificat. Je le laisserai donc ici, dans mon bureau, et vous reviendrez le signer en fin de semaine, quand votre mari pourra sortir.
Johan retrouve la parole et interroge.
Vous le gardez jusqu'à la fin de semaine ?
Après les mots sensés et compréhensifs du médecin, elle s'était attendue à pouvoir le ramener avec elle ce matin.
3-4 jours d'atropine ne lui feront pas de mal. Vous le récupérerez en meilleure forme.
Il s'interrompt brutalement et tourne vers elle un regard grave.
En revanche, oubliez les longues promenades, les cours de danse, les relations sexuelles ou n'importe quelle autre activité physique. Votre mari aura une faiblesse cardiaque de plus en plus marquée. Évitez l'exposition à la chaleur également et, de façon générale, les contrariétés. Il va lui falloir beaucoup de repos et de calme s'il veut profiter encore quelque temps des plaisirs de la vie.
Sa voix se teinte de compassion et de tristesse quand il ajoute
« C'est compris ?»
Johan ? Elle manque de défaillir de bonheur quand elle constate qu'il la reconnaît. Ça n'est toujours pas son Émile, l'adulte. C'est sa version enfantine et bloquée dans le passé. Mais l'essentiel est qu'il la reconnaisse en tant que la fille qui l'accompagne à la montagne pour soigner son cerveau. Elle redoutait plus que tout une nouvelle crise. Mais il est parfaitement calme dans son lit d'hôpital. Elle est soulagée. Elle vient se planter à côté du lit en souriant.
Hey, ça va ?
Émile lui sourit. Il désigne les électrodes sous sa robe de chambre blanche.
Ils ont dit que j'avais fait un malaise cardiaque.
Elle confirme d'un hochement de tête et se perche au bout du lit au niveau de ses pieds. Visiblement, il n'a aucun souvenir de la scène de la veille sur le hameau et elle en est ravie. C'est grave ? Demande-t-il les sourcils soudain froncés. Elle prend un air dégagé quand elle secoue la tête.
Non, ça n'est pas grave. Tu seras sorti en fin de semaine. On rentrera au camping-car dans le hameau et on fera ce que tu veux. On pourra faire un peu de jardinage ou jouer au Monopoly. Ou juste faire la sieste.
Ses sourcils se lèvent encore plus haut. Au hameau ?
Oui.
Un temps de silence passe.
Tu ne t'en souviens pas ?
Demande-t-elle timidement. Il secoue la tête.
C'est rien. Tu verras, c'est un endroit vraiment joli, entouré de montagnes de calcaire blanche.
Elle voit une étincelle briller au fond de ses yeux.
Est-ce qu'on pourra partir avec le sac à dos et la tente ? Quand on était chez Hippolyte, t'avais dit qu'on partirait avec les sacs à dos.
Elle se souvient des mots du médecin quelques minutes plus tôt. Oubliez les longues promenades.
On verra.
Pourquoi on verra ?
Le médecin a dit que tu devais te reposer.
Il le saura pas.
Il a un petit air espiègle de petit garçon. Elle ne peut s'empêcher de lui sourire.
Ouais. T'as raison. On pourrait faire ça en cachette.
Elle le voit se redresser soudain et jeter des regards insistants par la porte entrouverte de sa chambre. Il se trémousse comme s'il était impatient.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Demande-t-elle. Il continue de gigoter dans son lit pour tenter d'apercevoir quelque chose par l'entrebâillement de la porte.
C'est rien, j'attends juste qu'elle revienne,
dit-il sans la regarder, toute son attention centrée sur le couloir.
L'infirmière devait repasser ?
Non.
Non ?
il gigote tellement qu'une de ses électrodes est en train de se décoller.
Émile, reste tranquille. L'infirmière reviendra en temps voulu.
Mais il secoue la tête et la regarde avec un sourire de petit garçon.
C'est pas l'infirmière, Johan, c'est ma mère.
Elle sent son cœur se serrer et ses poumons se glacer.
Quoi ?
Le sourire d'Émile s'élargit. Maman était là tout à l'heure, avec Marjo. Elle ouvre la bouche, mais aucun son n'en sort. Elle sent la panique l'envahir, son cœur s'accélérer. Elle est à deux doigts de suffoquer quand la suite tombe.
On a été faire un tour sur la plage. Elle est partie m'acheter une glace. Tu voudras que je lui demande une glace pour toi aussi ?
Le regard de Johan est posé tranquillement sur le terrain de permaculture. Elle aperçoit, sans vraiment les voir, les buttes et les spirales à aromates. La nuit tombe et c'est le moment qu'elle préfère. Le hameau se vide. Chacun rentre chez soi. Les lumières s'allument dans les cabanes de bergers. Elle peut s'asseoir seule dans le silence et s'imaginer être un arbre. Elle respire calmement. Ses yeux ne captent plus rien. Sa vision est floue. Elle visualise des racines qui sortent de ses pieds, de son bassin, de ses cuisses. Des racines qui grandissent et s'épaississent. Des racines qui s'enfoncent dans le sol profondément, toujours plus profondément. Elle ressent le contact avec la terre, l'énergie qui remonte jusqu'à elle, qui la traverse. Elle reste immobile. La nuit tombe totalement. L'herbe se couvre de rosée. Elle se sent plus sereine, plus forte. C'est Joseph qui lui a appris cet exercice.
Quand tu as l'impression que la vie t'éparpille en mille morceaux, quand tous tes repères s'envolent, alors transforme-toi en arbre.
Cela fait trop longtemps qu'elle n'a pas pris le temps de s'asseoir et de ressentir. Il y a eu les malaises, le chantier, l'arrivée du nouvel Émile, cet Émile qui a l'air d'un enfant, chaque jour un peu plus. Elle est heureuse de se retrouver avec elle-même ce soir. Elle reste immobile encore une heure. Une paix intérieure l'a gagnée. Elle se sent presque prête à affronter la suite. Elle puise encore quelques vibrations dans ce contact avec la terre, puis elle prend une large inspiration. Poc s'approche à petits pas de sa maîtresse et vient se frotter contre son dos. Il a toujours beaucoup aimé les arbres. Ils sont grands, forts, majestueux. Ils sont calmes et secrets, invisibles pour la plupart des êtres. Et pourtant, il résiste à toutes les tempêtes.
Émile rentre demain ?
Johan acquiesce. Isadora se tient devant le petit terrain qui leur a été alloué, la main en visière devant les yeux.
Il va être content de voir ce que t'as fait.
Johan est accroupi en train de replacer un des petits galets qui composent l'allée principale de son œuvre. Elle a eu 4 jours pour transformer leur petit terrain vide en véritable petite cour de maisonnette. Elle a tracé une jolie allée de galets menant jusqu'à leur porte et un petit carré de galets également, faisant office de terrasse. La table et les chaises pliantes y ont été installées ainsi qu'un parasol blanchi par le soleil et un vieux bain de soleil rouillé dont Mariko voulait se débarrasser. À l'arrière du camping-car, sous un large chêne liège, Johan a installé 4 planches de bois autour d'un minuscule lopin de terre. Elle a décidé de faire pousser quelques herbes aromatiques. Pour l'instant, cela ne ressemble qu'à un carré de terre battue, mais très vite, elle espère y voir grimper de la menthe, du basilic et du romarin. Elle a nettoyé le camping-car de fond en comble et installé de nouveaux rideaux aux fenêtres, dont le voisin, le monsieur à la lampe torche, ne voulait plus. Ils sont jaunes et oranges et amènent une touche de vitalité à l'intérieur. Il semble à Johan que l'intégralité du hameau est au courant du retour imminent d'Émile. Car chaque fois qu'elle croise quelqu'un, la question revient.
« Votre ami rentre bientôt ? Demain ?»
Ils sont nombreux à avoir pris de ses nouvelles et à avoir proposé leur service à Johan pour la mener à l'hôpital et la récupérer. Elle ne sait comment se comporter face à toutes ces attentions. Son initiation à la méditation, prévue pour le samedi, sera son remerciement collectif. Peut-être qu'Émile voudra aussi venir.
« Tu devrais te reposer maintenant !»
déclare Isadora.
« J'ai presque fini. »« Fais une pause, t'auras besoin d'énergie quand il sera là. Je t'appellerai pour le dîner. »
Le médecin a la mine sombre ce matin.
Pourtant, c'est une matinée de printemps particulièrement chaude et ensoleillée. L'été n'est pas loin. Dans le hameau, Mariko a allumé un barbecue pour fêter le retour d'Émile.
Bien, je vous laisse relire ce document avant de le signer en 2 exemplaires. Il me faudra également votre carte d'identité et votre acte de mariage.
Johan acquiesce. Elle a déjà préparé les papiers. Elle les fait glisser sur le bureau avant de se saisir des formulaires que lui tend le médecin. Elle parcourt les lignes rapidement. Quelques phrases s'impriment plus que d'autres. Je sous-signais Madame Joanne Marie Trognier, épouse Verger, responsable légale du patient Émile Marcel Verger, hospitalisé au centre hospitalier Pasteur dans le cadre d'un malaise cardiaque, reconnaît avoir été informé de manière claire et avoir compris les risques encourus en refusant les soins proposés qui comprennent de façon non limitative essoufflement, évanouissement, insuffisance cardiaque, arrêt cardiaque et décès du patient. Je déclare vouloir néanmoins faire quitter le service à Émile Marcel Verger et refuser les soins et ou l'intervention que lui propose le docteur Margueron et dégage ainsi le docteur Margueron et le centre hospitalier Pasteur de toute responsabilité et de toute conséquence, y compris vitale, qui peuvent résulter de ma décision. Je comprends que même si je signe ce document, cela ne m'empêchera pas de changer d'avis et n'empêchera pas le patient de revenir à l'hôpital en cas de problème ou simplement s'il le désire et s'il a des questions. Suivent un champ « Signature du patient ou de son responsable légal » et un champ « Signature du médecin » ainsi que l'habituel « Lu et approuvé ». Johan griffonne rapidement et signe les 2 exemplaires. Le médecin a toujours la mine sombre. Il se sent obligé d'ajouter «
S'il y a quoi que ce soit, si vous êtes prise d'un doute concernant votre décision... »
Mais elle l'interrompt.
« Merci, docteur. »
Elle récupère acte de mariage et carte d'identité et attend patiemment que le médecin appose sa signature sur les décharges. Le feuillet lui revient enfin. Le docteur se lève pour la raccompagner à la porte de son bureau.
« Prenez soin de lui, Madame Verger. »
Elle accroche une dernière fois ses yeux verts perçants derrière ses lunettes à la monture dorée. Elle est consciente de l'humanité dont il a fait preuve et de la difficulté que cela représente pour lui. C'est ce qu'elle essaie de lui transmettre à travers ce dernier long regard, toute sa reconnaissance.
« Merci pour tout !»
Il la regarde partir en silence de sa drôle de démarche, petite forme noire dans les couloirs blancs de l'hôpital.